Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. De suite après l'émission d'Adil Farkane, les informés du lundi au vendredi à 19h-20h. C'est place à votre quotidien sportif qui est Time Sport en ce lundi 18 octobre 2021. On parlera de quoi? On parlera de cet Olympique de Marseille qui encense l'antre du Vélodrome, et oui, de cet orange Vélodrome, et aussi un petit rappel à la mémoire de Bernard Tapie. L'OM qui prépare donc ce fameux classique, ou est-ce le classico, face au Paris Saint-Germain d'un certain Mauricio Pochettino. On verra justement ce Paris Saint-Germain toujours aussi poussif en Ligue 1 Uber Eats. On accueillera sur l'antenne de Beurre FM, encore une fois. Allez, c'est une magnifique personne, Chérif Guémour, qui est journaliste et aussi auteur de Remontada, panorama des comebacks les plus fous du foot aux éditions Larousse. Et on verra aussi les déclarations d'un certain Benjamin Pavard avec les Bleus, mais aussi à travers ses clubs qui est en Europe. Ouais, on va voir tout cela. On part de suite avec le JT des sports avec Jason. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport.
Bonjour à tous, on démarre le JT par un point médical côté Paris Saint-Germain. Neymar, touché à l'adducteur lors du dernier rassemblement en équipe du Brésil, manquera le match face à Leipzig demain soir en Champions League, tout comme Leandro Paredes qui lui sera indisponible plusieurs semaines suite à une douleur au quadriceps survenue en équipe d'Argentine. Et un autre Argentin toujours à Paris, Mauro Icardi, de nouveau absent de l'entraînement ce lundi pour motif familial, pourrait lui aussi manquer la rencontre face aux Allemands mardi soir. Lucas Hernandez s'est présenté ce lundi du côté du tribunal de Madrid suite à une affaire concernant des problèmes avec sa compagne datant de 2017. Le défenseur français du Bayern Munich aurait, selon ce même tribunal, un délai de 10 jours pour entrer volontairement en prison, sauf si la demande de recours a été acceptée à temps et lui permet d'éviter donc l'incarcération. Affaire à suivre. Et enfin, à 109 jours du début des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, la fameuse flamme olympique a été allumée ce lundi à Olympe, comme le veut la tradition, et ce malgré l'absence du public pour des raisons sanitaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En vous souhaitant une bonne émission en compagnie de Bilal Nelman et toute l'équipe Time Sport.
Voilà, c'est reparti après ce fameux JT Sport, le premier de la semaine, en la personne de notre consultant et reporter Jason. On accueille sur ce plateau ce soir l'équipe, la fine équipe de Time Sport, en la personne de Juan Trossé. Juan Trossé, comment ça va?
Hola, buenas tardes a todos. Très bien, puisque nous allons parler du foot, notamment, on va parler avec notre invité. Du PSG Barça, puisque c'était la première remontada dont on a souvenir, même s'il va nous rappeler que ça date, les remontadas.
Oui, ça date beaucoup. Attention, tu vas faire péter un plomb, je crois, notre réalisateur qui est Yanis. Hervé est avec nous ce soir. Comment ça va, Hervé?
Bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent. Grosse pensée à Mauro Icardi, voilà, qui passe des heures vraiment très difficiles, vraiment depuis quelques jours. Franchement, grosse pensée à lui.
Arrête, toi aussi. Boula, il est avec nous, Boula, ce premier jour de la semaine. Ça va bien?
Très bien, toi?
Ouais, tu as passé un bon week-end, Boula?
Un bon week-end.
Ouais.
Et bonne fête de Mouloud pour toute la communauté.
Voilà, et ben ça c'est Boula qui le souhaite à toutes les auditrices, les auditeurs de Beurre FM. Et on l'accueille comme promis. Allez, pour une seconde fois, c'est Chérif Guémour. Comment ça va, Chérif?
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous, ça va très bien.
Nous aussi, Chérif. On va s'attarder sur le premier sujet de cette émission qui est l'Olympique de Marseille, Chérif.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
4 buts à 1 dans ce stade de l'Orange Vélodrome. Ça fait plaisir. Et aussi pour commémorer un peu cette perte qui est du boss, comme le disent les supporters marseillais, un certain Bernard Tapie. C'est vrai, Camara, la 27e, Guendouzi par un doublé, et aussi Milic à la 85e. Marseille est fort.
Ouais, c'était pas mal, fallait réagir parce que là on est au tout début du championnat et il faut choper le bon wagon pour le podium. Là ils étaient sur 3 matchs sans victoire, fallait à tout prix gagner, mais c'est surtout rester bien accroché au wagon parce qu'après le train il va partir et ceux qui ne suivront pas, et ils ne pourront pas viser le podium et Ligue des Champions en Coupe d'Europe.
On le rappelle, Paris Saint-Germain à 27 points, Lens second à 18 points et Marseille troisième à 17 points.
Hervé. Un match en moins.
Ouais, c'est vrai, face à Nice. Ouais.
Comme le disait Chémour, c'était un match qui revêtait une importance toute particulière après les récentes contre-performances des Phocéens. J'ai bien aimé l'attitude des hommes de Saint-Pauli, comme c'est le cas depuis le début de saison.
Ouais.
Pour moi, ce match, il a mis en évidence 3 choses. La première, c'est que Gerson n'est pas indispensable. Hier, Camara a livré une prestation vraiment de très haute facture au milieu de terrain. La deuxième confirmation qu'on a eue, c'est que Dimitri Payet est plus que jamais le phare de cette équipe marseillaise. C'est pour moi, après Lucas Paqueta, le deuxième meilleur joueur de Ligue 1 en ce début de saison. Et la troisième confirmation qu'on a eue, c'est que jouer avec, c'est peut-être impensif ce que je veux dire, mais jouer avec un référent, avec un attaquant du profil de Arkadiusz Milik, ça bonifie comme l'expression collective. On a vu un Marseille quand même qui était beaucoup plus cohérent dans les 25 derniers mètres. Et c'est une bonne nouvelle pour les semaines à venir, et notamment pour la double confrontation qui va opposer les Marseillais ou la Dial en Europa League.
Ouais, la Lazio et aussi le Paris Saint-Germain. Boula, Marseille, prêt?
Bah, Marseille, ils ont été à l'image de l'équipe qu'ils ont au départ.
Ouais.
Je reviens à ce que disait Gerson. Les deux joueurs indispensables de cette équipe, c'est Payet et Camara. Aujourd'hui, quand tu vois la qualité de ces deux joueurs, ce qu'ils ont fait hier, c'est eux qui ont déclenché un petit peu le match. Et puis, bon, c'est vrai que Guendouzi met deux buts, mais sur le côté, c'est pas du tout son poste. Et je trouve que c'est une équipe qui est bien réglée. En plus de ça, avec la défaite de Nice, ça a permis de récupérer 3 points sur Nice, parce que Nice, pareil, ils jouent la Ligue des Champions. Et ce qui est bien dans cette équipe de Marseille, tu sens qu'il y a un potentiel au niveau banc, au niveau tout. Et aujourd'hui, quand je vois Payet à l'âge, je pense que ça va être une année exceptionnelle pour lui. Et comme je reviens aussi à ce qu'il me disait, c'est que le petit Camara,
ouais,
à un moment donné, il faut qu'il trouve une solution pour le prolonger, parce que c'est vraiment un gros cadre de l'équipe.
Ouais.
C'est une machine. Et puis je pense qu'il est un petit peu sous-estimé dans, surtout en France. Au niveau international, il est un petit peu sous-estimé. Et puis je trouve ça, par rapport à la qualité qu'il a, Camara, je trouve ça un petit peu. Je comprends pas les équipes de France, comment que ça se fait qu'ils font pas appel à lui.
Ouais. Mais l'équipe de France, Juan Rossi est peut-être d'accord avec cela, non?
Oui, ouais. Non, tout à fait. Alors, d'accord. Mais, et déjà, parce que c'est un match qui n'était pas facile au départ, hein, les deux équipes avec les mêmes points. Donc, Marseille aurait pu se retrouver aujourd'hui 12e du championnat au lieu d'être de 3e. Donc, petit à petit, l'idée des Sampaoli s'installe. L'équipe marseillaise prenne petit à petit ses marques. Il y a des automatismes qui sont là. On les voit tous les week-ends. Et c'est vrai que maintenant, il faut juste, comme on l'avait dit dans les semaines passées, il va falloir continuer à bosser dur, à continuer à travailler avec cette humilité, parce que c'est pas facile de se retrouver 3e du championnat. Et je pense que eux, ils peuvent effectivement à la fin de la saison décrocher, être dans le trio de tête, mais pour ça il va falloir travailler dur. Aujourd'hui, Marseille commence à proposer quelque chose par rapport aux dernières années, et moi j'ai confiance dans cette équipe, pour peu qu'on laisse Sampaoli continuer à travailler correctement.
Oui, il reste peut-être dubitatif, notre invité, Chérif Guémour. Avant de donner la parole à Hervé.
Oui, non, parce que c'est pas parfait. Il y a encore plein de choses qui ne vont pas, notamment au point de vue défensif, au point de vue, comment dirais-je, de l'homogénéité du bloc. Il y a un mieux. On sent l'idée maintenant qui commence à s'imprégner dans le jeu, je suis d'accord avec toi. Milik apporte énormément, Hervé, je suis d'accord avec toi. Voilà, maintenant il y a une pointe, un numéro 9. Maintenant les postes, ils commencent vraiment à s'éclaircir. On peut se passer de Gerson, je suis entièrement d'accord. Donc, on est bien, il fallait gagner hier soir, communion avec le public, parfait. Maintenant, il y a d'autres équipes qui, je pense, ont un projet de jeu un peu plus abouti. C'est juste une question d'avance et de retard. Je pense qu'une équipe comme Rennes, Nice, Lens, Lyon, c'est pas encore ça. Paris, ils sont trop forts. Je pense que voilà, il y a ces équipes-là qui sont un peu plus en avance sur le projet collectif. Marseille, c'est bien, ça arrive. Mais c'est pas encore du niveau de Nice. Avec Nice, quand ça commence à jouer, Marseille, ils n'en sont pas encore là. Ouais. C'est en train de venir. Et là, c'est très bien. Il y a 2 tests. Jeudi à la radio, comme tu dis.
C'est ça.
Et dimanche, voilà. Et là, on va voir où ils en sont.
Ouais.
Ça tombe parfait.
Oui, en fait, le calendrier.
C'est arrivé à pratiquement.
Il rêvait, Hervé.
Je suis bien sûr rêvé.
C'est ça.
Pratiquement,
non, M. Guémour.
Dit tout ce que je m'apprêtais à dire. En fait, c'est une équipe qui est plaisante à avoir joué. c'est une équipe qui est dynamique, qui est enthousiasmante. Maintenant, tu te dis que va falloir qu'elle gomme un peu les petits scories qui parasitent un peu la prestation collective de Marseille. Comme disait Serif, notamment en défense, tu sens que
c'est si elles jouent de les mettre en difficulté.
Ouais, surtout. Exactement. Hier, à un moment donné, t'as le petit Diarra qui a la balle du break juste avant que Camara justement égalise. Il a la possibilité de marquer le deuxième but et là. Enfin, c'est un tout autre match qui peut débuter. Moi, je suis impatient de voir cette équipe-là contre la Lazio.
Ouais, la Lazio.
Je pense que ce seront vraiment deux révélateurs qui vont nous permettre de pouvoir situer le curseur de l'équipe marseillaise, qui vont pouvoir nous montrer si cette équipe est capable de rivaliser contre.
Et d'enchaîner coup sur coup aussi.
Exactement, d'avoir plus de.
La profondeur des bancs. Est-ce qu'on va voir s'ils ont la profondeur des bancs
pour
pouvoir tenir de ce niveau-là. Parce que c'est pas évident du tout.
Ce que dit Juan Rosé, c'est vachement intéressant parce que là, alors comme le jeu commence à se mettre en place, qu'on commence à dégager une équipe type, ceux qui ne vont pas sauter dans le train tout de suite, d'ailleurs je parlais du classement, il faut être dans le bon wagon, c'est-à-dire dans les trois premiers pour jouer avec des champions, mais à l'intérieur du groupe, il y a une équipe type qui est en train de se mettre en place, et ceux qui ne vont pas choper leur place tout de suite, ça va être, voilà, je pense à Mandanda, je pense à Tersen, ils doivent être 4 ou 5. Alors, par exemple, Rongier a marqué des points. Mm-hmm. Il n'était pas évident, maintenant voilà. Le projet, il est en place, il y a un train qui est parti, et ceux qui ne vont pas sauter tout de suite dans le train, ils vont être en difficulté.
Ah oui, c'est ça.
Quand il dit que Rongier, il a marqué des points, certes, mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier.
C'est quoi ?
Tu n'as pas un entraîneur qui joue défensif, tu as un entraîneur qui joue très haut.
Il va.
Il joue très haut, il prend des risques dans la qualité de jeu, et c'est ce qu'il fait. Quand Diarra, il fait un match exceptionnel. Diarra, il fait un match exceptionnel.
Ouais.
Mais après, il faut savoir que la plupart des clubs de D1, ils jouent vachement en bloc défensif. Et les joueurs offensifs, ils défendent. Là, tu sens qu'il y a un jeu qui est très haut à la Cruyff, ou qu'il presse très haut.
Ouais.
Et c'est là que tu vois les espaces défensifs. Sinon, l'équipe qu'ils ont mis en place, Marseille, cette année,
avec son
par rapport à l'époque de Didier Deschamps, je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait sur un an et demi de travail de mise en place. Ils ont pris un coach, ils ont pris des joueurs, ils ont pris des joueurs de qualité.
Monsieur Longoria fait du bien aussi, l'Espagnol.
La mayonnaise, elle est en train de prendre, quand je vois un joueur comme Amin Harit qui est remplaçant, je pense qu'il a le temps.
Il a le temps
de venir. Je pense qu'il y avait de la place hier pour jouer. Gerson qui est remplaçant, tu sens que le potentiel technique
de l'Olympique de Marseille,
il est là.
Ouais, c'est vrai, Boula. Intéressant. Voilà. Oui, Chérif.
Harit, par exemple, hier, ils ont gagné sans lui. Donc, moi, je suis
un joueur.
Place d'Harit. Là, ce matin, à l'entraînement, j'expose tout. Parce que je veux ma place. Et voilà, le truc, c'est en train de se mettre en place. Il y a une vraie concurrence. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon pour l'entraîneur. Ça, quand tu vois les mecs qu'on l'écrou parce qu'ils veulent gagner leur place, ils veulent jouer devant 60 000 personnes.
Un vrai plein à craquer.
Ils veulent vivre ça.
C'est vrai, ouais. Et ça fait longtemps qu'on n'a plus vu cela du côté de l'Olympique de Marseille.
Tout le monde le dit, les gens ils sortent du stade, ils ont la banane.
Ouais.
Et c'est ça qui est vachement important parce qu'on parle souvent du public marseillais. Ouais, le public marseillais, ils veulent des titres et des résultats. Non, d'abord, ils veulent que les mecs se dépouillent sur le terrain. Et comme ils le voient, même quand il y a des érosions, ils sont contents. Ils n'ont pas fait la bronca contre Lens, ils étaient déçus. Tu perds la
réussite
contre Lens. Mais comme les mecs ont tout donné, voilà.
Ce qui m'étonne cette saison, c'est qu'on a joué un quart du championnat et entre le 14e, je crois, et le 4e, il n'y a que 3 points de différence. C'est un championnat cette année qui est très resserré. On est à 10 matchs et parfois on avait déjà l'habitude, on voyait déjà comment ça allait se passer tout au long de la saison. Et là, on voit qu'effectivement, c'est assez resserré. Et j'attends voir effectivement que Marseille puisse tenir la cadence, que Lyon puisse accélérer un petit peu plus. Parce qu'on attend un peu plus de Lyon, mais ça va arriver certainement dans les prochains matchs, parce que là pour Marseille, pour le PSG, enfin le PSG à part, parce que ils sont vraiment des bons, mais pour Marseille notamment, il y a les compétitions internationales et ça va avoir beaucoup d'importance. Alors est-ce qu'ils vont être capables de tenir cette cadence? C'est vraiment un championnat très resserré, ce qui fait qu'il est très intéressant aussi.
La Ligue 1 Uber Eats devient intéressante. Donc, Chérif,
c'est pour ça quand je dis qu'il faut choper le bon wagon, regardez Monaco, c'est pratiquement foutu. J'ai pas dit que c'est foutu, c'est mort.
Ouais.
Ils disent, ça va être dur maintenant de revenir sur le podium et de jouer la Ligue des Champions. Et trop tard, et ils ont pas chopé le bon wagon. Marseille l'a chopé.
Marseille peut-être. Hervé, alors il répond
Donc, voilà, la question qu'on peut se poser, ouais, c'est une autre question. Mais est-ce que ce Marseille-là, ce Marseille qu'on a vu, ce Marseille qui a les défauts de ses qualités, va pouvoir rivaliser contre le Paris Saint-Germain dimanche? On sait que c'est un match qui, voilà, j'apprends rien à mes collègues autour de la table, qui ont fait une importance particulière pour les deux équipes. Est-ce que ce Marseille-là pourra tenir la dragée haute au Paris Saint-Germain? Quand je vois les largesses défensives des Marseillais,
des fois ça part dans tous les sens.
Je suis un peu inquiet pour ce dimanche, honnêtement.
Ouais, c'est aussi.
Quand je vous parlais justement que c'est un championnat,
on va parler
resserré
du Paris Saint-Germain,
et qui est un championnat intéressant, c'est que on a appris il y a à peu près une heure que le match OM-PSG va être retransmis en direct en Espagne, en direct et en clair. Vous avez la seule fois où on a vu un match en direct et en clair, c'était avec Messi lors du début avec le PSG. Ce match va être retransmis en Espagne, effectivement, on commence à avoir beaucoup d'intérêt pour ce qui se passe du côté de la Ligue 1.
Change, et oui, ça fait plaisir à Boula, peut-être
aussi.
Il n'intéresse
pas de se tromper, Messi, alors. Hein? Parce que il y a toute l'Espagne qui va regarder le match parce qu'il y a Messi.
Il n'y a pas que Messi.
Il y a
d'autres Espagnols qui vont jouer.
Même à Marseille.
Ils ne sont pas les seuls.
Quand tu dis il n'y a pas que Messi, un mec qui a fait toutes ses classes en Espagne, à Barcelone.
Mais on va voir le match en direct. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très particulier. Absolument. Parce qu'on ne s'est jamais intéressé à la Ligue 1.
Non, mais c'est vrai ce qu'il dit, Juan José. Alors, c'est une petite parenthèse. Je ne pense pas que c'était dans le conducteur. Mais je pense que la venue de Messi a permis de mettre en lumière le championnat de France. Enfin, moi, je suis souvent l'actualité footballistique argentine.
Bien sûr.
Et il y a une chaîne qui s'appelle ESPN Argentina qui a acheté les droits de la Ligue 1. Au moment où ils ont su que Messi signait en France. C'est-à-dire qu'un championnat qui ne regardait pas, qui ne t'intéressait pas plus que ça, dès qu'ils ont su que Messi allait rejoindre la capitale, ils ont acheté les droits de la Ligue 1.
Ils ont pris les droits de la Ligue 1 ou du PSG?
De la Ligue 1, les droits et la Ligue 1. Et sur l'une des émissions assez connues qui s'appelle Football 90, parfois on analyse principalement les matchs du PSG. On analyse les matchs des Argentins, voilà les prestations de Di Maria, de Paredes, c'est un peu cantonné sur le banc de remplaçants en ce moment, Messi. Et tout ça pour dire que depuis le début de saison, le championnat français a vraiment gagné en intérêt. Et je pense que on peut ne pas aimer forcément le Paris Saint-Germain, mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour notre championnat. Ça permet de mettre en lumière et de gagner en attractivité.
Oui, ça marche. Le championnat qui est la Ligue 1 Uber Eats, monsieur Guémour. Ouais, aujourd'hui on a quand même évolué.
On a aussi, si je peux rajouter un truc, des matchs de qualité. Franchement, moi, je ne vais pas mentir qu'il y a un moment donné, je me suis un peu déconnecté du.
Il y en a qui pleuraient.
Mais là, pour cette championnat. Exactement, sans vouloir te couper, force est de constater que depuis le début de saison, on assiste vraiment à de très bons matchs. Parfois, moi-même, je suis agréablement surpris.
Oui, monsieur Guémour, rapidement.
Très bon match, surtout, ça tient aux entraîneurs. Il y a des entraîneurs moins frileux. Il y a toute une génération qui a un peu lâché la barre. Il y en a des nouveaux qui sont arrivés. On parle évidemment de Francaise, même d'Alaglio. Puis les entraîneurs étrangers. On voit que même Bordeaux, c'est pas super, mais on voit que Petkovic a quand même une idée de jeu. Ça va être long à se mettre en place.
Ouais.
Sampaoli, on le présente pas, on est d'accord. Et c'est tous ces entraîneurs-là. Galtier a fait ses preuves. On a un entraîneur néerlandais, c'est très très rare en France. À Lyon, pareil, le jeu est en train de se mettre en place.
Merci messieurs, merci. On va faire une courte pause, Boula. Vraiment, on va revenir avec Boula et monsieur Chérif Guémour. Une courte pause avant de revenir avec notre invité de ce soir. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et voilà, ça parle encore et encore avec l'équipe de Time Sport et avec notre invité aussi. On est toujours en live jusqu'à 21h. Voilà, chères auditrices et auditeurs de Beurre FM, on peut vous faire réagir aussi au 0153483000 si vous avez des questions, même pour monsieur Guémour qui est avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Allez, place à notre invité.
Time Sport. The Special One.
Eh oui, il est avec nous, un spécial. C'est très très spécial ce soir. Eh oui, avec un fin connaisseur du football, en la personne d'un des fondateurs du magnifique média qui est SoFoot, et aussi vraiment connaisseur de ce beau jeu. Chérif Guémour, qui est avec nous, sur l'antenne de Beurre FM, remontada, panorama des comebacks les plus fous du football, en Europe et même ailleurs, je crois, aux éditions Larousse. Justement, pourquoi cette idée vous êtes venu comme ça de faire ce livre où on peut remonter dans le temps avec des matchs où on a eu ces fameuses remontadas avec la RFA et la Hongrie par exemple, ou encore le Portugal Corée du Nord, mais encore le Boca Junior, ça fera plaisir à Hervé.
River Plate.
Avec le River Plate, c'est ça. où malheureusement pour les supporters du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, ça fait pas plaisir à Yanis parce qu'il avait pas mal pleuré lors de cette soirée-là, le 6-1.
Alors d'abord, c'est pas moi qui ai eu l'idée, on m'a proposé et je l'ai trouvé séduisante cette idée. Je me suis dit tiens, c'est une bonne idée, on va creuser, donc on va faire une sélection des matchs. Et alors je précise, le principe du bouquin, c'est pour moi une remontada, c'est quand il y a 3 buts à remonter. Pas un ou deux.
Ouais.
Alors soit sur un match en entier, soit sur un match aller-retour. Donc ça c'est la première chose. Et deuxièmement, le plus dur après c'était de faire une sélection, c'est-à-dire en gros, moi je voulais qu'il y ait à peu près toutes les époques et tous les continents. Donc il me fallait un match sud-américain, il me fallait un match africain.
Ouais.
Et puis après il y a évidemment les remontadas. Je voulais aussi qu'il y ait quelques matchs après la remontada du PSG Barça parce qu'il y en a eu plein. Et c'est là qu'en fait on a connu le phénomène des remontadas, que le mot est rentré dans le dictionnaire en France. Et que voilà quoi. Donc il y a une vingtaine de matchs.
On a retrouvé qui pourrait nous parler de ce fameux
mot. Il a sélectionné plusieurs matchs espagnols. Il y a notamment le match entre l'Espagne et Malte, 12-1 pour l'Espagne. L'Espagne, il fallait qu'elle ait 11 buts de différence pour pouvoir se qualifier pour l'Euro. Ouais. Et elle a réussi à avoir les 11 buts. Non, mais justement, tu parlais de Boca River Plate.
Ouais.
Là, au-delà de la remontada, de la différence de buts, il y a aussi une vraie rivalité. Ce qui n'est pas systématiquement dans d'autres matchs que tu as choisi. Mais c'est important aussi de rajouter cet aspect des rivalités, Boca River Plate par exemple, ou peut-être un prochain PSG Barça, où effectivement il y a toujours une rivalité qui est marquée par des confrontations qu'il y a eu dans le passé.
Ouais, tout à fait. De toute façon, c'est les remontadas. C'est là, je parle de River Plate. Évidemment que River Plate, c'est le super classico, River contre Boca. Et il fallait bien que dans l'histoire du classico, enfin du super classico comme on l'appelle là-bas, il fallait vraiment qu'il y ait un match avec une remontada. Et ben ouais, on en a trouvé une en 72. Et c'est un match. Et encore des images, elles sont en noir et blanc. Ça va d'un but à l'autre. Et puis après, dans l'ambiance, on n'a pas le son, mais on sait que c'est de la folie. Et là, on entre dans la légende du super classico. Et voilà pourquoi aussi ça s'appelle le super classico.
Et il y en a trouvé quand même des clubs français ont réussi cette remontada.
Oui, j'ai mis quatre remontadas françaises.
Alors,
Saint-Etienne, Hajduk Split en 74. Ils gagnent 4-1 à l'aller, ils gagnent 5-1 au retour après prolongation. Il y a le fabuleux. Marseille-Montpellier en 98.
On se rappelle le discours.
Marseille est mené 4-0 à la mi-temps au Vélodrome devant 60 000 personnes.
En début de saison.
Voilà, ils finissent par gagner 5-4. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu les images à la mi-temps.
Ouais. Avec Jean Nicolas.
J'étais là-bas.
Il y a Roland Courbis qui dit.
Voilà, vous l'avez été.
Qui dit à Loulou Nicolas, il lui dit. Quand je pense qu'on va gagner 5-4. Et l'autre, il lui dit, ça, c'est des couilles. Tu vas voir. Et en fait, c'est un truc de fou. Finalement, il gagne 5-4. Ensuite, j'ai mis le Metz qui va se qualifier, évidemment, au Barcelone.
Barcelone,
puis,
c'est ça.
Le PSG contre Steaua à Bucarest. Ils avaient perdu 3-0 sur tapis vert.
Ouais.
Et donc, ils devaient gagner par un écart de plus de 3 buts en 90 minutes. Il n'y a pas de prolongation, c'est sur tapis vert.
Ouais. Enfin, pour gagner 5-0. 5-0, ça, c'est incroyable. Hervé, alors, Boula, pas mal de réactions.
T'as fait le bouquin par rapport à son foot?
Non, du tout. C'est la Rose qui m'a demandé. Mais après, comme j'ai un côté un peu rétro, foot rétro et tout, c'est peut-être aussi pour ça que moi.
Mais ça plaît beaucoup, justement.
C'est marrant parce que tu prends la Ligue française ou la Fédé.
Ouais.
Ils n'ont pas eu l'idée de faire des petits documentaires sur ça. Mais c'est bien pour le public d'avoir un bouquin comme ça, surtout même pour les gamins. Parce
qu'ils
connaissent un peu l'historique, un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis des années. Moi, je trouve que c'est enrichissant pour la richesse du football aujourd'hui, surtout pour les gamins qui disent tiens, il y a des trucs qu'on peut faire et qu'on peut pas faire.
J'ai découvert que moi je croyais qu'en fait les petits jeunes étaient très très branchés réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo, Messi, Zlatan et Kane, enfin tous les trucs.
Ouais.
En fait non, ils s'intéressent un peu, ils vont sur
beaucoup.
Et pourquoi il y a Didier Roustan
Didier. Alors, je le remercie infiniment.
Nous aussi on lui passe le bonsoir à Didier.
Il nous a fait une super préface. Parce que déjà, lui, des remontadas, il en a vu en vrai.
Ouais, ça c'est.
Surtout, c'est que lui, c'est un peu notre parrain un peu à tous, il est un peu plus âgé que nous.
Ouais.
Lui faisait un parallèle entre les remontadas sportives du foot et puis les remontadas de la vie. C'est-à-dire quand il y a des hauts et des bas dans la vie,
ouais.
Des moments où
il faut s'accrocher.
Bien, voilà, il faut s'accrocher.
C'est ça, shérif.
Et comme on connaît pas toujours nos ressources humaines pour remonter et puis pour y croire à nouveau, il en parle un peu et je trouve ça super. Et je le
regarde. Il parle un peu sur le bouquin.
Pardon ?
Il parle Didier Roustan sur le bouquin ?
Un petit peu, ouais, il a communiqué.
Parmi tous ces matchs, il y en a un qui te touche plus que d'autres.
Ouais, alors il y a celui de l'enfance, c'est Saint-Étienne Split, parce qu'il n'est pas passé à la télé et que j'aurais pas pu le regarder de toute façon parce qu'on ne regardait pas la télé. Après, le match qui m'a vraiment marqué, c'est Liverpool-Milan AC en 2005.
Ouais, il était la finale.
Incroyable.
Je revenais du Brésil, parce qu'on était allé au Brésil avec SoFoot et tout. Donc on arrive en début de soirée, puis avec les potes, on est devant la télé. 1-0, 2-0, 3-0 pour Milan. Ouais. Et on se dit, bon, bah. Voilà, on va écouter la télé, on va écouter la musique, on va raconter mon voyage et tout. Et puis, à un quart d'heure de la fin, on va quand même regarder la fin du match et puis la remise de la coupe. Comme Dieu. Et puis, il y a un crétin dans le tas et tout qui dit bon, on va couper le sang. On va juste couper le sang. Ah, bonne idée et tout. Et on continue. On voit Steven Gerrard qui met le but du 3-1. Après, c'est Smith-Herr qui marque. Et là, on remet le son comme des malades et tout. On arrête de faire les cons et on regarde le match. Et puis, c'est fabuleux.
Ah, c'est incroyable. Mais aussi, on n'a pas Mourad ce soir. Le Reading FC, ça a fait plaisir à. Je vais laisser la parole à Hervé face aux Gunners d'Arsenal, hein, le 7-5. Oui, Hervé.
Juan Rosa pique à ma question, mais j'en ai une deuxième. Est-ce que tu penses que les remontadas relèvent un peu de la dramaturgie, selon toi ?
Bien sûr, c'est ce qui fait la légende du foot. On vit pour ça, c'est ce qui fait que notre sport. Après, il y a eu des grandes remontadas, il y en a en rugby, il y en a même en athlétisme. Et c'est en fait ce qui nous fait rêver, mais surtout. La dramaturgie, ça se ramène toujours à notre propre vie, notre propre existence. Pourquoi je soutiens ce club de merde qui... Je me mets à la souffrance des supporters du PSG. Ils vont porter ça en eux toute leur vie, c'est évident. Et par contre, au Barça, les mecs qui étaient au Nou Camp, jamais ils oublieront ça. Et quelque part, dans leur esprit, ils vont se dire... Faut jamais renoncer. Rappelle-toi du 6. Donc voilà, c'est la dramaturgie, c'est parce que ça se rapporte à notre vie, notre existence, avec des hauts et des bas, et puis voilà, faut jamais lâcher.
Après, dans la remontada, il y a une réflexion, ça s'explique aussi, la remontada.
Mais des fois,
quand tu vois 4-0 4-0 à Paris,
ouais.
T'as Kimbembe, il est dans l'axe, il fait un gros match, et le match d'après, c'est le prince. C'est le prince qui dit non, Thiago Silva, faut qu'il joue le match retour. C'est le problème, c'est que.
Alors il y a des fois.
Après, faut pas, à un moment donné, le problème du haut niveau, le problème des résultats, ils sont dus, ces défaites, ils sont dus à ces petits détails aussi.
Oui, à certains joueurs peut-être.
Dans tous les matchs, je parle justement des détails, je parle des petits signes
prémonitoires. Ben c'est bien, c'est pour ça que je te pose cette question-là.
Je parle aussi comment des fois, il y a des causes logiques qui peuvent expliquer qu'il y a un remontada.
Exactement.
Voilà. Mais des fois, c'est irrationnel. Mais
je comprends pas quand tu dis irrationnel, c'est parce que.
Le irrationnel, c'est le 6-1. Je veux dire, au bout d'un moment, quand Di Maria y marque, tout le monde sait que c'est fini. Il y a quoi ? Il y a 1-1 ou 2-1 quand il marque Di Maria au Nou Camp, c'est fini. Ils vont pas revenir. Ils vont marquer. Ils vont marquer combien ? 4 buts, 5 buts, je m'en rappelle plus.
C'est incroyable.
5 buts. 5. C'est irrationnel. Moi, je veux bien qu'on me dise, il y a la MSN, Messi.
Ça me fait plaisir à Hervé, ça.
C'était pas 3-1, c'était pas à 3-1 quand il marque.
Oui,
il a raison. Parce qu'à un moment donné, quand il marque Di Maria,
tu penses que le match est fini.
Le match est plié.
Et c'est Neymar.
Il y a pénalty, faute. Il y a la pénalty, la faute de Neymar. Et puis, Sergio Roberto qui met donc le but. Mais c'est complètement irrationnel. Et c'est en 10 minutes.
Ouais.
D'ailleurs, il y avait du monde qui partait du stade. On voyait les mondes partir du stade.
Moi, j'avais été arrêté.
C'est Neymar qui croit. C'est pas Messi qui remet la mécanique en.
Non, c'est Neymar.
Mais tu parles est-ce que tu parles de la remontada ? Est-ce que tu parles de l'entraîneur ? Parce que l'entraîneur.
Un petit peu.
L'entraîneur.
Mais il est.
Il a pas. Il a. Parce que l'entraîneur que je connais, ça fait des années que je le vois travailler. Je pense qu'il avait pas les clés de ce match-là. Pour avoir ce résultat. C'est des petits détails, tu vois, c'est des petits détails.
Unai Emery comprend pas. Il a toujours pas compris. Il a donné une interview et il comprend pas. Alors, c'est pas très classe parce qu'il s'en prend un peu à Thiago Silva. Il a pas tort. Mais
Il a pas tort.
Mais il est démuni, même aujourd'hui. Alors, évidemment, ça va le poursuivre toute sa vie. On parlait du côté émotionnel. Mais Il est sur le bord de la touche et lui, il n'est pas sur le terrain. Ils t'entendent pas en plus. T'as le public qui gueule. T'es... Les mecs, ils sont dans leur match. Non, ils sont plus dans leur match, justement, mais tu peux plus agir. Le match, l'histoire est en cours.
Est-ce qu'on peut dire, Chérif, comme tu l'as dit, que c'est remontada, comme tu l'as justement dit, elle relève un peu de, du surréaliste, un peu de l'irréel. Ouais. On parle du Barça Paris.
Ajax Tottenham.
On peut aussi parler du Liverpool Barça, tu vois. Ouais. Le Barça colle 3-0 au Camp Nou au match aller en demi-finale de Ligue des Champions et ils se prennent 4-0 dans la figure une semaine plus tard en Anfield. Ouais, une remontada que aucun culé, aucun supporter Blaugrana aurait pu imaginer. Tant pour eux la qualification elle a été scellée. Moi je pense que il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il y a des matchs qu'on peut refaire 100 fois. Ouais. On n'aura toujours pas les clés, on n'aura toujours pas les réponses. Je pense qu'il y a une part d'irréel, une part un peu de mystique un peu dans ces remontées épiques, dans ces matchs qui sont entrés dans la légende du football européen.
Et quand Benitez gagne la Ligue des Champions,
ouais,
avec le Bayern, il perdait combien?
Non, avec Liverpool.
Hein,
avec Liverpool.
Benitez avec Liverpool quand il gagne la Ligue des Champions, il la gagne contre le Bayern. Et ils avaient, je ne sais plus combien de buts d'avance, le Bayern, dans le match.
Donc, ils apprennent chez eux.
Non, Milan. Milan ou Bayern? Moi, Milan. Je crois que c'est le Bayern.
Non, c'était le Milan. Non.
Milan,
c'est
Milan.
Liverpool-Milan. Oui, le Milan. Le Milan. C'est Milan.
Qui revient donc
au Sheriff. Ajax-Tottenham. C'est le lendemain, comment ça s'appelle? Il y a eu les deux. Tu parlais de Liverpool. Le Barça. 1-0 à l'aller pour l'Ajax. Bon, tu sens que c'est bien engagé. Les mecs, ils mènent 2-0 à Amsterdam. C'est plié. Qui marque? Casse-Moura. En France, on n'en voulait plus. C'est un mauvais. Et le mec, il plante le triplé. Il fait le match de sa vie. Il met un triplé et on se retrouve à l'arrivée. Vous vous rappelez tous les joueurs de l'Ajax qui sont par terre, qui sont étendus sur le sol et tout? Mais mettez-vous à leur place. Les mecs, ils ont 22 ans de moyenne d'âge. Sur le moment, ils ont 60 ans, les mecs. Ils se relèveront plus. C'est des petits vieux. Il va falloir y sortir sur les fauteuils roulants parce que les mecs, c'est pas possible. Bah si, relevez-vous, les mecs. Vous avez perdu, vous êtes éliminés. Non, c'est pas possible.
Alors, on a des auditeurs qui nous disent. Justement, oublions pas l'arbitrage scandaleux aussi lors de la remontada du Barcelone face au Paris Saint-Germain.
Ça fait partie de l'histoire. Alors, et vous verrez qu'avec la VAR, il y aura quand même des problèmes d'arbitrage. Ça ne résoudra pas. Et ça va rentrer dans l'allée.
C'est comme Tapie quand il a dit, quand il se fait éliminer contre Porto, il dit j'ai compris.
La main de bâtard.
Ah, mais il a dit j'ai compris.
Oui.
Est-ce qu'il a compris?
Il avait vraiment compris.
Hervé, réaction. Avant la pause.
Enfin, je ne sais pas si c'est une question. Est-ce que ce n'est pas justement ces matchs épiques qui font que le football est considéré dans la planète entière un peu comme le sport roi, en fait. C'est-à-dire qu'il nous procure des émotions que tu ressens nulle part ailleurs. Que ce soit en tennis, moi je suis un fan de tennis, ou même en Formule 1 ou autre. T'as pas ce type d'émotion, en fait.
Non, parce que le foot, c'est
l'ascenseur émotionnel.
Quasiment le seul sport, il y a des exceptions dans les autres sports, quasiment le seul sport où, avant un match, tu as toujours une équipe plus forte, une équipe moins forte, tu as un favori et tu as un outsider. Mais on sait qu'en foot, ça va pas être à tous les coups. Le petit peut battre le gros et l'outsider peut battre le favori. Et ça, c'est ce qui fait l'essence du foot. Parce qu'en basket, t'as les plus grands, tu gagnes. En rugby, t'as les plus forts, tu gagnes. C'est comme ça, c'est plié. De temps en temps, t'as une exception. Le foot, non, c'est pas ça. Et comment dire, c'est ça qui a construit. Si vous voulez comprendre pourquoi le Real Madrid est le plus grand club du monde, et pour moi, ça, il reste. C'est parce que il y a des fois où ils avaient pas une super équipe, ou alors même quand ils avaient une super équipe, ils ont su renverser des situations qui font que, comment dire, le Real s'est construit comme ça à coup de remontada parce qu'ils en ont fait plein. En Ligue des Champions, en Coupe de l'UEFA, en Coupe des vainqueurs de coupe, et c'est comme ça qu'ils ont grandi. Et c'est comme ça qu'il y a la mystique du Real Madrid. C'est parce qu'ils ont fait des remontadas. Mais des fois, ils ont fait des remontadas avec des équipes qui étaient pas extraordinaires, des bonnes équipes mais pas extraordinaires. Pourquoi? Parce que avant certains matchs, c'était eux les petits, c'était eux les outsiders, et qu'on finit par gagner. Et ils ont gagné des trophées en plus. Donc à l'arrivée, avec toutes ces années, tous les joueurs qui ont fait la légende du club, va jouer au Bernabéu. Même quand t'as gagné 3-0 au match aller chez toi, tu vas au Bernabéu, t'as peur. Tu sais que c'est le Real. Comme j'expliquais, des fois, t'as Cristiano Ronaldo sur le terrain, tu as Zidane sur la touche et tu as Florentino Pérez en tribune. Tu sais que tu n'as aucune chance. C'est pas vrai, mais déjà. Voilà, oui. La légende du Real, c'est parce qu'ils ont fait des remontadas dans le passé aussi. Et j'en ai mis deux remontadas du Real.
Avant la pause,
la chance du Real, c'est d'avoir après toutes les histoires qu'il y a eu, surtout avec les déficits qu'il y a eu, c'est d'avoir un président comme Florentino Pérez.
Et qui connaît l'histoire.
Il pèse lourd quand même.
Ah oui, évidemment.
Là,
évidemment.
Quand tu regardes aujourd'hui pour la reconstruction du Real de Madrid au niveau des joueurs, il a un budget de 800 millions qui est bloqué pour faire son recrutement.
Oui, mais il n'a pas recruté pendant 3 saisons.
Oui.
Mais il n'a pas recruté.
Je suis d'accord avec toi.
Donc, après, il y avait des travaux du.
Oui, il y a les travaux.
Mais il a un budget de 800 millions. Oui. José.
Non, mais de toute façon, ce qu'il y a de bien avec Florentino Pérez, il a tous les défauts qu'on lui connaît, mais il connaît bien l'histoire de son club.
Ouais, ça c'est sûr.
Puis c'est un mec intelligent, c'est un chef d'entreprise.
On le rappelle aux éditions Larousse, Chérif Guémou, Remontada, Panorama des comebacks les plus fous du football, voilà, à travers le monde. Il reste avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On va marquer encore d'une dernière pause avant de revenir avec le Paris Saint-Germain et aussi un certain Pavard.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Donc ça allait toujours en live jusqu'à 21h avec Monsieur Chérif Guémour, journaliste sportif de football aussi, mais aussi auteur de ce magnifique livre, on le rappelle, aux éditions Larousse, Remontada, Panorama des comebacks les plus fous dans le football. Avec Juan Trossé, avec Boula, sans oublier Hervé. Allez, on prend le chemin de la porte d'Auteuil.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Eh oui, 2-1 ce week-end, un succès plus que poussif avant l'Europe, Juan Trossé.
Oui, tout à fait. Et c'est peut-être logique aussi, parce que justement, les joueurs du PSG ont la tête aussi à ce match de Leipzig, face à Leipzig, parce que ce match pourrait, pour eux, signifier déjà la qualification. C'est vrai que si on regarde de près cette qualification, elle n'est pas jouée dans le sens où, effectivement, Bruges est au même nombre de points qu'eux. Et le PSG pourrait, effectivement, prendre une option, sachant que Bruges va aller jouer face à City. Donc, ça reste quand même un match compliqué à gérer pour le PSG, parce que derrière, il y a aussi l'OM, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, la tête, depuis une semaine, la tête des joueurs du PSG est à ce match de mardi et pas à celui des week-ends face à Marseille.
Ils s'en foutent, celui de Marseille. Vous voyez, Hervé, peut-être réaction.
Pas s'en foutent, mais pour l'instant, c'est pas leur priorité.
C'est une équipe qui est un peu compliquée à analyser, dans le sens où, sans être reluisant en Ligue 1, ils arrivent à gagner pratiquement tous leurs matchs. Leur seul faux pas, ça a été à Rennes, au cours d'un match qu'ils perdent de manière un peu miraculeuse. Ils ont 9 points d'avance sur Lens. En Ligue des Champions, ils sont dans la course pour pouvoir se qualifier pour le tour suivant. Le Paris Saint-Germain me fait penser un peu à Mr. Hyde et Dr. Jekyll. On ne sait jamais quelle face on aura. On ne sait jamais si on aura l'équipe un peu timorée qui joue un peu au petit trot, ou si on aura vraiment la machine de guerre qui va vouloir écraser tous ses adversaires sur le terrain. C'est un peu l'inconnu qu'on a avec le Paris Saint-Germain ces dernières semaines.
Chérif,
c'est un peu le côté inquiétant de Paris. De toute façon, les deux matchs de Ligue des Champions, ça reflète bien. Ouais. Contre Bruges, ils sont hors sujet. J'ai pas dit qu'ils sont nuls, ils sont hors sujet. Ouais. Donc, mais ils s'en sortent parce que bon, voilà, il y a les individualités. Contre Manchester City, là, c'est le match de prestige retransmis, dans le monde entier. Et là, par contre,
Un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau, vas-y. Boula, enchaîne. Alors, il a besoin de.
Moi, je dirais Paris. Le gros problème qu'ils ont, c'est dans le collectif. C'est il y a toujours 2-3 joueurs toujours en plus.
Ouais.
Et la mayonnaise apprend pas dans le collectif. Apprend pas du tout, parce que quand tu regardes contre Angers, même quand tu regardes le coach, il était en panique à un moment donné quand ils ouvrent le score Angers. Et c'est sûr que le match, il était très compliqué pour Paris pour avoir des espaces pour ouvrir. C'est pour ça que Paris, aujourd'hui, ils sont attendus de partout. Même au niveau de l'arbitrage en France, ils ont un avantage.
Carrément.
Ah oui, ils ont un avantage. Mais après l'arbitrage, il est en conséquence de l'arrivée de Messi. C'est quand même une figure qui, au championnat, il a pris de l'ampleur. C'est un club qui est très ciblé, qui est ciblé de tous les côtés. Quand ils arrivent, c'est pas comme les autres pays. Hein,
alors on a un auditeur qui nous dit le match de Leipzig et aussi l'Olympique de Marseille sont très importants, Juan Trossé.
Sont importants, mais j'ai pas dit qu'ils sont pas importants. Ouais. Mais la tête du PSG. Et vers ce match de demain.
C'est Leipzig, hein, non.
La priorité, Marseille arrive après.
C'est ça.
La priorité, c'est Leipzig. On va rappeler quand même que ce serait bien de finir premier de la poule.
Parce
que, en principe, sur le papier, on avait dit. Ça se défend que Manchester City finirait peut-être premier, mais finir deuxième de la poule, ça veut dire éventuellement tomber encore sur le Bayern en huitième. Et là, cette année, ça va pas être, ils vont pas être sauvés par la neige et le verglas cette année.
Notre auditeur te demande, Boula, de patienter. Le PSG sera au top de sa forme en février. Voilà. Tout comme les gros cylindrés européens.
Au nom de quoi au nom de quoi le PSG
Moi, je vais lui donner raison. Tu sais pourquoi?
Alors pourquoi?
Parce qu'il y en a un qui est en train de se soigner, qui sera là au top pour faire les matchs les plus importants, c'est Ramos. Parce que les gens, ils critiquent Ramos avec l'arrivée.
Il est beaucoup critiqué.
Non, mais ils peuvent le critiquer. PSG, quand il l'a pris, il savait très bien qu'il était blessé.
Bien sûr.
Mais lui, le jour qu'il va récupérer, toutes ses sensations, et je pense qu'au niveau médical, avec Christophe Baudeau, il est très très bien, il est très très bien géré au niveau médical.
Ils
n'ont pas envie d'envoyer comme le Real a fait. Ils voulaient à tout prix qu'il joue. Là, ils vont attendre qu'il soit au top physiquement et au niveau santé. Et on verra ce qu'il va apporter au PSG. Et ce qu'il va apporter au PSG, c'est ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas le vrai meneur d'homme pour emmener l'équipe là-haut. Et le seul joueur qui peut faire ça, c'est Ramos.
Non, c'est un peu de la pensée magique. Dire alors, le PSG sera compétitif en mars, en février, en septembre, on n'en sait rien. Le PSG, c'est un club irrationnel, avec des hauts et des bas. Moi, je vois tous leurs matchs. Des fois, je comprends pas. Les mecs sont pas du tout dedans. Mais comme ils ont toujours les individualités, le poids de vraiment. Et en plus, ils ont du banc, donc ça passe. Je demande à voir dans la deuxième partie de saison, justement après la trêve, et dire que Ramos va arriver. Déjà, ça a l'air plus sérieux que ce qu'on nous avait annoncé. Deuxièmement, c'est pas que Ramos doit revenir, c'est qu'il doit revenir à 100%. On est quand même au PSG, et à partir de février, si on dit que Paris, l'objectif c'est quand même minimum de la finale, c'est-à-dire que tu as 7 matchs européens, et 7 matchs européens, il faut être au taquet. Et Ramos, on sait pas s'il sera au taquet au mois de février. Il doit l'être à 100%, sinon c'est pas la peine. On fait pas jouer un Neymar à 80%, un Verratti à 60%. Non, là on arrive dans la Ligue des Champions, et c'est, voilà. Moi, je préfère Herrera à 100% que Verratti à 60%. Et désolé, j'adore Verratti. Mais là, c'est de la pensée magique de dire, oh oui, ça
c'est
va se
la pensée magique, il faut que tu saches que les entraîneurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir leurs joueurs compétitifs. Et des fois, ils vont même très loin à les faire jouer quand ils sont blessés. Et ils n'arrivent pas à les récupérer.
Mais il n'a pas le rythme pour l'instant. Il va revenir. Mais il n'a pas le rythme. Tu as besoin d'un certain nombre de matchs pour t'adapter.
Absolument.
Et il n'a pas le rythme pour l'instant.
Tu ne peux pas deviner que le mec en février, il sera au top.
Moi, j'ai confiance. J'ai confiance au staff médical du PSG. J'ai confiance à les gens qui ont pris l'initiative de prendre Ramos. Parce que là, aujourd'hui, c'est facile de critiquer. Ouais, il joue pas. Mais je préfère qu'il joue pas. Non, mais je parle pas de moi. Je parle en général.
Non.
Je parle au niveau des médias. Les médias, ils lui tombent dessus. Mais il y a un truc qu'il faut savoir. Quelqu'un de blessé.
Il y en a pas mal.
S'il est pas à 100%, il peut pas jouer. Je préfère qu'il joue pas. Et je préfère attendre.
Alors, on termine.
On lui tombe pas dessus. La seule chose qu'on met en lumière, c'est que lorsque Ramos a signé au Paris Saint-Germain, on a eu plein de news dans la presse disant qu'il était en excellente forme. Disant qu'il était presque à son apogée physique. Et trois semaines plus tard, on apprend que le mec est blessé et depuis lors, il est jamais revenu.
Hervé est blessé où?
Exactement.
C'est le genou, les cartilages ou c'est le mollet?
Voilà, il y a
le mollet. Déjà,
c'est un grand mystère. C'est le l'état physique.
Déjà, il est pas allé à l'Euro. Et il a assuré que pendant cette période, il s'est entraîné, il s'est préparé physiquement. Alors, c'est vrai qu'il y avait des problèmes des cartilages, ce qui a fait que son retour précipité du côté du Real l'a fait jouer un match, il a fallu qu'il arrête à nouveau. Voilà. Mais après, depuis, ce sont des petites douleurs au niveau du mollet. Bon, maintenant, il va falloir faire attention, effectivement, mais il faut reprendre le rythme derrière.
La question que je pose, c'est comment se fait-il que lors de la visite médicale, les services médicaux vantent l'état physique de Ramos, nous disons qu'il est en excellente forme, nous disons qu'il est prêt pour la compétition, et à peine quelques jours, quelques semaines plus tard, on apprend que le mec est blessé ici, blessé là-bas. Enfin, il y a quand même un problème au niveau de la communication. Moi, c'est la seule chose que je souligne.
Allez, la dernière rubrique de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, monsieur Pavard, en principe, je cite, on demande à un défenseur, monsieur Guémour, de bien défendre. Donc pour moi, c'est normal de bien défendre Juan José. Sauf que le latéral, de maintenant, c'est aussi apporté offensivement. Sur le papier, c'est peut-être moins sexy Pavard que Achraf Hakimi ou encore Arnold Alexander. Mais je trouve que défensivement, je suis plus complet à glisser le champion du monde en titre. Benjamin Pavard au profil moins offensif que les deux joueurs cités. Là aussi, ouais, ça fait polémique. Pas mal de personnes ont réagi à cela.
Mais j'ai beaucoup de mal avec Pavard parce qu'en fait, on a envie de le critiquer parce qu'avec avec l'équipe de France, il a pas été top. Après, il y a eu un changement. Il a pas tort quand il dit on passe d'une défense à 3, ouais, une défense à 4. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout. Il a raison. Ouais. C'est pas les mêmes repères. Après, il y a une réalité.
Alors laquelle ?
Il a la confiance du sélectionneur français, même si moi je suis pas convaincu. Et il a eu la confiance de Flick et Nagelsmann. Mm-hmm. Je suis désolé, ils connaissent mieux le foot que nous. Ils savent. Donc, comment dire, maintenant, les propos mais sont d'une maladresse infinie. C'est se comparer à Hakimi. Hakimi, quand on voit la saison qu'il fait la saison dernière avec l'Inter, il est l'un des protagonistes du titre de l'Inter. Et Alexander Arnold, c'est quand même. Lui, il a gagné aussi la Ligue des Champions. Ouais. Et il est quitte d'Angleterre. Enfin bon, peu importe. Ça, c'est maladroit. Maintenant, moi, je constate, parce que j'ai plein de discussions avec des potes et tout. Ouais. Je constate, il est titulaire au Bayern. Et c'est en plus, il a bien fait de rappeler qu'à la base, c'est un axial. C'est pas latéral.
Axial.
Hein. Il est d'accord. Alors, Boula.
Il a raison.
Je
rejoins Sheriff parce que c'est vrai que tu prends un joueur comme Pavard, il était exceptionnel. Même les Italiens, quand il était à Lille, ils le voulaient à tout prix. La chance qu'il a eue, c'est de partir en Allemagne.
Il était beaucoup demandé, c'est vrai.
Même à la Roma.
Moi,
je m'en rappelle parce que j'ai été sollicité pour aller le chercher pour l'emmener à la Roma. Et comme il dit Sheriff, il a quand même eu pas des tintins comme entraîneur. Il a eu les meilleurs. Entraîneur français. Il a eu le meilleur entraîneur français.
Après, il y a Nagelsmann qui vient d'arriver tout de suite. Lui, il dit ok, d'accord. Il est titulaire. Mm-hmm. Je suis désolé, Flick, Nagelsmann, c'est au-dessus de nos forces.
Les supporters français disaient qu'il faut rester sur terre.
Roberto Carlos, il prenait bien le couloir. Mais il avait. Juan Carlos a dû bien le connaître. Il avait des manques aussi au niveau du placement.
Maintenant, Pavard, c'est pas Sagnol. Sagnol, il était top en défenseur, mec qui prenait le couloir, on est d'accord. Mais maintenant, c'est quoi les alternatives en France? En latéral droit, on a qui en France? Dites-moi.
C'est la réalité. C'est vrai que les déclarations sont maladroites. Je peux comprendre le manque de reconnaissance parce qu'on parle beaucoup des joueurs de l'équipe de France et on parle rarement de lui. Hormis le but en 2018 Mondial. Hormis ça, c'est vrai que ce n'est pas le joueur dont on parle le plus. Donc maladroite du côté effectivement de ses déclarations. Par la suite, et je suis d'accord avec toi, il est en équipe de France parce qu'il n'y a pas non plus des grosses alternatives à Pavard.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas des grosses, mais il y a un qui est...
Je te fais remarquer que côté gauche, tu as plusieurs possibilités. Côté droit, tu n'as pas 150 côté droit.
Dubois, pour moi... J'ai du mal. Et après, tu parlais de qui? Tu parlais de Sidibé.
Sidibé,
il est blessé, malheureusement. Il fait un très bon début de saison. Là, je te rejoins.
T'as pas vu quand il est sorti?
Et c'est dommage que Aguilar n'a pas la forme de la saison dernière.
Allez, Hervé.
Je n'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. Je pense que c'est des propos, comme vous l'avez dit, un peu maladroits. Après, moi, j'aimerais quand même inciter quand même Pavard à faire preuve de davantage d'humilité. Enfin, à l'écouter, on dirait qu'il fait partie du top 5 européen, alors qu'il est même pas dans le top 20 des meilleurs latéraux en Europe. Donc moi, j'aimerais appeler Benjamin Pavard à davantage d'humilité quand il dit que quand il parle des latéraux, aujourd'hui, la plupart des latéraux qu'on met sous les feux des projecteurs, ce sont des latéraux qui sont davantage enclins, qui sont davantage à l'aise sur la phase offensive que sur la phase défensive. C'est un fait, mais pour autant, moi, je pense que Je comprends pas vraiment les déclarations de Benjamin Pavard.
Après, c'est vrai que t'as raison, mais ils sont maladroits dans la communication. Quand tu vois Delors au niveau de la communication,
on en a
c'est
parlé.
Un problème, c'est parce qu'ils sont mal gérés au niveau com. Ils savent pas parler, ils savent pas s'exprimer sur un truc. Faut pas leur en vouloir. Les footballeurs, c'est pas, on leur a appris à jouer au football. On leur a pas appris à être en face d'un micro et parler. Je me rappelle, Jean-Luc Pacul, il me disait, c'était à l'époque de Ben Madi, il me disait,
ça, chez RTL,
il y en a 5-6 dans le championnat de France qui savent parler, s'exprimer devant un micro.
Mbappé.
Ouais, Kylian. Ouais, je suis d'accord avec lui. D'accord avec Chérif Kylian.
Il parle
quand tu regardes, mais Kylian.
Jamais pour rien dire.
Oui, mais
et sa mère
est préparée. Tu sais pourquoi Il est entouré au niveau de sa communication.
Ah oui.
Les joueurs, leur problème, tu sais, c'est
il
quoi
a pas tort,
c'est
Gabon.
Qu'ils n'ont pas un mec qui leur dit ce qu'il faut dire. Tu prends un mec comme Zizou, on dit ouais, il parle pas. Mais pourquoi il parle pas? Quand il parle juste. Le problème, c'est qu'il est briefé par Adidas, il est briefé par Migliaccio. C'est toute une éducation de communication pour ces joueurs-là. Tu prends ces mecs-là comme. Et en plus de ça, moi, je leur en veux pas parce que je sais comment il est perçu intellectuellement le footballeur. Ouais. Comment il est perçu, c'est pas évident.
Et c'est justement
intéressant, Boula.
C'est justement
on va terminer, chérif.
Dommage avec Karim Benzema quand il a parlé de la Formule 1 et du karting. Tu dis non, Karim, toi, c'est.
Là, moi, je crois qu'il est d'accord avec toi. Bah, tu sens que Karim aujourd'hui, dans sa communication, il est entouré.
Moi, je croyais qu'avant, il était aussi.
Non, il n'était pas du tout.
C'est juste ça. Après, c'est parfait.
Le meilleur à droite, selon vous, en équipe de France, Angloma. On le balance, Angloma.
Il y a
sur les réseaux.
Défenseur
français.
Angloma, parfait.
Lisa.
Lisa aussi.
Thuram était pas mal. Mais le dernier, pour moi, c'est Sagnol.
Sagnol.
Les deux monstres.
Alors,
les
pour
deux
Boula.
Monstres au niveau défensif.
Ouais.
C'est Thuram et De Saï.
Pour Boula.
Ça, c'est autour.
C'est l'école italienne.
Merci, Boula.
Aujourd'hui,
Boula.
De Saï, c'était deux étrangers.
Un grand merci à Chérif Guémour d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et oui, de Beurre FM, dans cette émission qui est Time Sport, on le rappelle. Remontada, panorama des comebacks les plus fous du foot aux éditions Larousse. Un grand merci à vous, Chérif, à Juan Trossé, sans oublier Boula et Hervé de m'avoir accompagné.
Merci.
Benzema mérite-t-il le ballon d'or?
Oui, il le mérite, mais d'autres le méritent aussi.
Merci. Allez, on se retrouve dès demain à partir de 20h. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h.